Le débat africain, Alain Foucault.
Une économie en ruine, un pays exsangue, une administration inexistante, des violences, des tueries insoutenables. La transition peut-elle encore parvenir à ramener la paix avant février 2015, date de la fin de son mandat en Centrafrique? La mission semble bien compromise. Faut-il mettre la Centrafrique sous tutelle ou sous curatelle, comme le suggèrent certains? Comment sortir de ce cycle de violence en République centrafricaine? Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche à ce pays, avec plusieurs invités. D'abord, Madame Leia Koyasoum, la vice-présidente du CNT, le Conseil National de Transition. Elle est en direct de Bangui. Seconde invité, toujours en direct de la capitale centrafricaine, Monsieur Dieudonné Kombo Yaya, le président de l'ANE, l'Autorité Nationale des Élections, qui vient d'ailleurs d'annoncer qu'il faudra reporter les scrutins qui devaient se tenir en février 2015. Et sur ce plateau, dans ce studio 41 d'ici les Moulineaux, Antoinette Montaigne, la porte-parole de la présidence, ancienne ministre de la Communication et la Réconciliation Nationale. Également dans ce studio 41, Abila Awal, le porte-parole de la coalition Séléka. Jean-Baptiste Koba, le président du MESAN, le mouvement pour l'émancipation sociale de l'Afrique noire, l'un des partis historiques de la Centrafrique, est également dans ce studio 41 de RFI. Est-ce que ça vous choque lorsque vous entendez certains suggérer une mise sous tutelle de la Centrafrique pour en finir avec les crises à répétition qui secouent votre pays depuis les indépendances? Madame Antoinette Montaigne.
Je pense qu'aujourd'hui, la situation de la République centrafricaine est grave et que cette situation de gravité requiert une assistance accrue de la communauté internationale. Ce qui a été cité par votre voix tout à l'heure, il y a eu plusieurs dispositifs, un empilement de dispositifs, une dizaine d'interventions internationales depuis une vingtaine d'années. Et malheureusement, le remède n'a pas permis encore de stabiliser ce pays. Et la déflagration de 2012-2013 a précipité ce pays vraiment dans une situation grave
de chaos.
Aujourd'hui, c'est très important que la communauté internationale renforce sa présence.
Alors, concrètement, hein, parce que quand vous dites renforce, on est encore dans des choses assez abstraites. Curatelle, tutelle, quel est le statut qui devrait convenir aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que les Centrafricains ne peuvent pas résoudre eux-mêmes ce problème-là?
Ni le. Je pense que la venue des casques bleus avec une mission onusienne financée dans la pérennité est suffisante avec les autorités de la transition.
Il y a une dizaine de missions de l'ONU dans ce pays-là. Ça n'a pas apporté des solutions, Monsieur Koba.
Justement, je crois que c'est la première fois qu'on va aborder la venue des casques bleus avec une mission internationale sous mandat des Nations Unies qui avait été réclamée par les autorités de la transition et qui arrive le 15 septembre. Cette mission, combinée avec la bonne volonté de la sous-région, de l'Union africaine et le processus de dialogue politique qui a été entamé à Brazzaville avec l'accord de cessation des hostilités et l'accord de désarmement qui devra suivre une fois que...
Mais tout ça, c'est des choses qu'on a déjà vues. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
On n'a pas déjà vu parce que ce sera la première fois qu'il y aura 12 000 hommes qui vont arriver en République centrafricaine et qui vont avoir une mission claire des Nations Unies. Parce que jusque-là, toutes les missions que vous avez citées tout à l'heure, c'était des missions qui venaient de sont des missions à l'intérieur de la CEAC avec des moyens...
Qui est la communauté économique de l'Afrique centrale
avec des moyens qui étaient pas stabilisés dans la durée. Aujourd'hui, on va avoir des moyens onusiens stabilisés dans la durée avec des mécanismes de renforcement du capital humain, des ressources pour financer ces opérations militaires avec déjà un déblayage apporté par l'EUFOR, la Sangaris et la MISCA qui pourra apporter...
Un certain nombre de populations semblent déjà opposées à la présence de cette armée sur le terrain, Monsieur Awal.
Moi, je le constate avec beaucoup de regrets. Mais ce qui est sûr, les faits sont là. Le pays est pratiquement sous tutelle. C'est juste une question de temps, même si on ne veut pas le reconnaître. Mais moi, je pense que ça ne sert à rien de faire des missions pour faire des missions en République centrafricaine. La réalité, c'est qu'il faudrait que le responsable onusien accepte de discuter avec les Centrafricains. Et cette fois-ci, je demande vraiment...
Mais vous avez l'impression qu'on ne discute pas avec les Centrafricains?
Je demande vraiment aux politiciens centrafricains d'être vraiment responsables, de dire la vérité. Parce que, d'après moi, je pense que les missions onusiennes en République centrafricaine, quand ils viennent, ils passent seulement leur temps à traiter les causes. Ils passent leur temps seulement à traiter
les conséquences.
Ils ne traitent pas les causes. Et tant qu'on ne va pas avoir le courage de mettre le vrai problème sur la table...
Qui est lequel?
C'est le problème de vivre ensemble. C'est le problème de justice sociale. C'est le problème de bonne gouvernance. Et tant qu'on ne va pas accepter de mettre ces problèmes-là sur les tables, c'est que les mêmes causes vont produire les mêmes effets.
Monsieur Koba.
La communauté musulmane n'est pas la seule à avoir subi les conséquences de la mauvaise gestion et la mauvaise gouvernance dans notre pays. Il n'y a pas eu de persécution particulière et singulière de la communauté musulmane en Centrafrique jusqu'à ce que la Séléka se mette dans l'idée de vouloir conquérir le pouvoir. Je suis originaire d'une région qu'on appelle la Lobaye, où il y a une forte communauté musulmane. Il n'y a pas une seule famille centrafricaine qui n'a pas un membre de sa famille qui se soit islamisé ou qui se soit marié avec une femme de confession musulmane. Nous avons tous des parents musulmans, nous sommes tous parents. Il n'y a pas eu de persécution particulière. On instrumentalise la communauté musulmane, nos compatriotes musulmans, à des fins politiques. Et je dénonce cela. Alors, en ce qui concerne la mission des Nations Unies, on dit mission des Nations Unies. Mais il faudrait aussi qu'il y ait une mission des Centrafricains qui accompagne aussi cette mission des Nations Unies. Et parmi ces accompagnements, Madame Montaigne a évoqué le travail qui a été fait par Madame Catherine Samba-Panza concernant la réorganisation de l'armée centrafricaine. Vous avez parlé de propositions. Je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là. Nous avons un gouvernement, nous avons un état de transition, un gouvernement de transition. Il nous faut une armée de transition. Et il faut réorganiser l'armée centrafricaine. Il faut que l'armée centrafricaine soit associée aux opérations de stabilisation.
Oui, mais avec la méfiance qui existe aujourd'hui, parce qu'on écoutait M. Awal tout à l'heure dire les FACA, lui se méfie des FACA.
Alors, je vais répondre à mon compatriote, et j'espère que je vais le soulager donc de son inquiétude. Il ne s'agit pas de récupérer la garde présidentielle de Bozizé et la transformer en armée républicaine. Il suffit tout simplement, puisque Mme Catherine Samba-Panza avait fait le vœu de créer un gouvernement où se retrouveraient les différentes provinces, des représentants des différentes provinces, faisons une armée de transition, la plus représentative possible, avec une hiérarchie qui n'a pas été
Sur le papier peut-être, est-ce que c'est dans l'état actuel des choses, c'est faisable?
Oh, c'est faisable, c'est une question de volonté politique.
Monsieur Awal.
Je vais juste répondre à mon voisin.
Rapidement, parce qu'on a des
problèmes. Le problème, la République centrafricaine a toujours eu une armée monolithique. Et je vais vous donner un exemple simple. Quand on était au niveau de Brazzaville, les anti-balakans ont accepté d'aller signer un accord de cessation d'hostilité. Une fois rentrés à Bangui, qu'est-ce que leurs responsables ont fait? Ils sont rentrés à la radio pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, ils ont dissous la coalition anti-balaka. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont dit qu'ils sont à la disposition de l'armée. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, cette FACA, que les gens veulent mettre en place, ils veulent juste récupérer les anti-balakas.
Oui, mais dans ce cas, ce sont les éléments
de FACA et les anciens gardes républicains.
Oui, mais il vient de dire qu'on peut exclure cela.
Donc voilà, aujourd'hui, ce que nous voulons, une vraie, ce que les gens acceptent de s'asseoir et de discuter pour qu'il puisse y avoir une armée représentative.
Bien. On va donner la parole à ceux qui sont au téléphone, Madame Léa Koyasoum. Que répondez-vous à tout cela? La tutelle ou bien cette réorganisation dont on parle?
Je crois que la dernière intervention de mon compatriote qui parle de dialogue autour du problème, s'asseoir ensemble et discuter pour sortir une armée républicaine.
Monsieur
c'est
Koba.
Une discussion qui existe déjà au sein du Conseil national de transition qui réclame la prise en main de notre armée, de les discipliner pour qu'ils puissent se joindre aux forces internationales qui vont intervenir dans notre pays.
Pour vous aujourd'hui, la Centrafrique a-t-elle les moyens de gérer tout ça ou faut-il une tutelle, comme on disait tout à l'heure, pour gérer tout ça?
Nous avons traversé plus de deux décennies de crise de confiance. Ce qui fait que les partenaires, les pays amis qui interviennent, c'est pour servir d'arbitre. Et il nous appartient à nous de dire clairement et franchement, dans quelle direction nous voulons mener notre pays, nous voulons mener nos populations.
Oui, mais on a l'impression que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord.
Nous sommes en train de programmer un dialogue inclusif. Et lors de ce dialogue, nous pouvons nous parler, nous pouvons nous en sortir.
Madame Antoinette.
Oui, je pense que Brazzaville a été un point de départ hein, d'un dialogue qui était important. Mais très rapidement, je voulais revenir sur le fait qu'un État dans le monde entier, chaque État a son armée. Et que personne ne se leurre que la République centrafricaine restera indéfiniment sans armée. L'armée centrafricaine est appelée à se restructurer, à revivre pour un jour commencer à assurer les missions de sécurité et de souveraineté en République centrafricaine. Ceci étant, la question du dialogue est très importante. Et tout le monde le revendique, mais le dialogue a eu lieu à plusieurs reprises et vous avez décrit à juste raison tous les empilements de dispositifs qui n'ont pas totalement donné satisfaction sur le soulagement de la crise et notamment la situation de la population. Aujourd'hui, nous voulons aller plus loin. Le dialogue en République centrafricaine va se faire dans chaque sous-préfecture de la République centrafricaine pour que la population qui a subi une déflagration sans précédent puisse se prononcer sur son sort, sur son devenir. Ce sera aussi l'occasion de voir dans quelle situation vit la population centrafricaine, dont une bonne partie a péri dans la crise actuelle. Donc, c'est pas une petite affaire. Et ce ne sera plus que l'affaire d'une classe politique qui est très réduite, mais ce sera l'affaire de la nation. Et alors, c'est cela qui permettra la refondation. Nécessairement, dans chaque coin de la République centrafricaine, il y aura un dialogue, tout le monde va se parler, et on a déjà là, commencé, je pense qu'on est sur la bonne...
Madame Montaigne, tout le monde est d'accord, c'est-à-dire c'est des bonnes idées,
c'est dialogue. Pas que des idées, ça a déjà commencé, c'est une réalité. Il vous souvient que j'ai été ministre de la Réconciliation jusqu'au début, début du mois d'août, et que de ce que j'ai vu, contrairement à ce que j'entends les inquiétudes du porte-parole de la Séléka, mais bien sûr qu'il y a encore beaucoup de porteurs d'armes dans le pays. Ça, c'est pas le fait de la volonté. La population, on l'a dit tout à l'heure, vous l'avez dit dans votre propos en liminaire, que la population était prise en otage. Et ben le peuple qui est tué aujourd'hui est pris en otage par les porteurs d'armes. Et s'il n'y avait pas d'armes, on ne discute pas armes au poing. On discute armes au pied pour pouvoir se parler, s'entendre. Tant qu'il y a des armes en main, ça complique les possibilités de s'exprimer et d'échanger, de trouver des solutions.
Monsieur Dieudonné Kombo-Yaya, vous êtes finalement celui qui n'a pas beaucoup donné son point de vue. Pour vous, comment on procède? Vous qui êtes en train d'essayer d'organiser des élections, qu'est-ce qui va faciliter la tâche pour qu'on en arrive là? Parce que pour qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait confiance, il faut qu'il y ait le retour de l'autorité administrative.
Absolument. Je voulais d'abord très rapidement revenir sur cette question d'armée. Vous savez, c'est un moment de vous dire que le seul chef d'État qui a eu une armée véritablement républicaine, c'est Jean-Michel Bokassa, malheureusement. Alors, tous les chefs d'État qui sont succédés...
Ça prête à sourire aujourd'hui quand on entend ça.
Oui, l'armée a eu toujours un caractère régionaliste. Et aujourd'hui, nous vivons justement les conséquences de cette politique.
C'est ce que disait d'ailleurs M. Amal.
Il faut réorganiser l'armée et la responsabiliser. Il faut la responsabiliser. Et nous espérons qu'avec l'arrivée de forces de la MINUSCA, ce sera une plus-value pour l'amélioration substantielle de la sécurité des personnes.
Qui sera déployée d'ici le 15 septembre.
Et surtout des opérations électorales.
Là, jusque-là, personne ne répond à ma question. C'est-à-dire, on va réorganiser l'armée, c'est très bien. On va réorganiser l'administration, c'est très bien. Mais qui va le faire? Comment on fait? Est-ce qu'on vous met sous tutelle, comme certains l'ont dit? J'insiste là-dessus, parce que ça a beaucoup été dit.
Il faut plutôt nous aider à réorganiser ce pays sur le plan, tant sur le plan administratif, financier, que militaire.
En fait, quand on a pris le financier, le militaire, l'administratif, on est sous tutelle, non?
C'est l'assistance.
C'est de l'assistance.
Oui, l'assistance. Et non,
est-ce qu'on joue pas sur les mots? On dit qui paye commande. Qui paye commande. On dit qui paye commande, monsieur Alain Foucault.
Donc, pour vous, celui qui paye pour l'instant a colonisé la Centrafrique. C'est lui qui commande. Monsieur Kobar.
Écoutez, moi, je suis centrafricain. J'ai le regret de dire, et cela me fait très mal, que mon pays, depuis un certain temps, est sous tutelle.
Oui, mais la tutelle n'a pas l'air de marcher beaucoup non plus. Hein.
Oui, mais mon pays est sous tutelle. Et vous parliez tout à l'heure, évidemment, d'une des manifestations, justement, de cette mise sous tutelle, c'est la main lourde de la médiation internationale. Vous avez parlé de confiance tout à l'heure. Les Centrafricains ont besoin de retrouver confiance en eux, d'avoir le sentiment qu'ils sont capables de trouver des solutions à leur propre destin. Et c'est vrai que trop de médiation tue la médiation. Et nous envoyons parfois des manifestations qui sont choquantes.
Quand vous
dites
des manifestations qui sont choquantes, c'est quoi exactement? Par exemple, Madame Catherine Samba-Panza est sous la tutelle de quelqu'un ou est sous la pression de quelqu'un? Là, je vais donner la parole à Madame Antoinette Montaigne.
Vous savez, dans la situation actuelle de la République centrafricaine, qui est un pays devenu très fragile. Et il faut le rappeler encore avec force que ce pays a encore beaucoup de groupes armés, surarmés.
Vous ne répondez pas à ma question, Madame Montaigne, parce que le temps tourne rapidement.
Dans un tel pays, la chef de l'État de la transition, qui est Madame Samba Panza, c'est pas un va-t-en-guerre. C'est une femme venue de la société civile.
Est-ce qu'elle subit des pressions de certains dirigeants? C'est là la question, Madame Montaigne.
Elle reçoit l'appui de la communauté internationale dans le cadre de la médiation internationale, mais également des appuis des pays voisins qui lui permettent d'avancer dans mesure où
ça,
la
c'est
crise...
Le langage, le langage politique, monsieur
Mais si vous ne me laissez pas
monsieur
parler...
Non, parce que là, on n'a pas tout le temps. On est à trois minutes de la fin de l'émission.
Moi, je vais dire une chose très simple.
Oui.
C'est qu'il est temps que les Centrafricains s'assument. C'est qu'il faut qu'on arrête d'accuser les autres. Je pense qu'aucun chef d'État de la sous-région n'a pas comme programme que voilà, une fois il sera élu, il viendra juste aider la population centrafricaine. Ou bien aucun armée, aucun militaire de la sous-région ne s'engage pas dans l'armée pour venir mourir en République centrafricaine. Il faut être reconnaissant. Ce sont des gens qui sont venus nous aider parce qu'on a le problème. Chez nous, nous sommes incapables de résoudre nos problèmes.
Donc ils peuvent prendre des décisions sur place.
C'est pourquoi ils sont venus. Si on a accepté à ce qu'ils viennent nous aider, donc c'est normal qu'ils nous conseillent. Il faut qu'on arrête quand même de les accuser.
Pour vous, c'est du conseil. Pour M. Koba, c'est du conseil.
C'est plus que du conseil parfois. Parfois, la main est extrêmement lourde et nous perdons ainsi une certaine autonomie et une capacité à diriger notre propre destin.
Je vous pose la même question à Mme Kouyassoum.
Moi, je ne comprends pas lorsque M. Koba parle de main lourde. Je ne comprends pas. Moi, j'estime que, tout à l'heure, je disais que nous sommes dans une situation de crise de confiance et l'intervention de des pays amis, c'est pour nous appuyer, c'est pour nous aider, mais la décision, les grandes décisions, nous reviennent.
Est-ce que ces dirigeants ont le droit de choisir des personnes à rentrer dans le gouvernement ou à diriger?
Il ne faut que des propositions.
Bien.
Et il appartient aux dirigeants de décider en leur âme et conscience.
Reconnaissez quand même que s'ils font des propositions sur la nomination des gens, c'est que c'est eux qui gouvernent finalement, non?
Non, puisque c'est pas eux qui nomment, puisque c'est pas eux qui signent les décrets.
Mais comme on disait, s'ils payent, ils commandent. Monsieur Dieudonné Kombouyaya, je vous entends sourire.
Oui, mais... Vous savez, la finalité de tout ce que nous entreprenons aujourd'hui dans ce pays, ce sont des élections et les gens n'en parlent pas beaucoup. Il est important que toutes les précautions, toutes les garanties soient prises pour permettre aux peuples centrafricains d'aller aux élections dans un climat sécurisé.
Et apaisé.
Et je dois rappeler que la résolution 2149 du mois d'avril a demandé à ce qu'une assistance technique nécessaire au processus électoral soit apporté à l'autorité nationale des élections en vue de la tenue des élections au plus tard en février 2015. Que constatons-nous aujourd'hui? Nous constatons que cette résolution, l'assistance nécessaire n'est pas apportée à l'autorité nationale des élections, mais nous sommes bien obligés, vous connaissez la situation financière de ce pays, et les élections vont intervenir non pas en période normale, parce que nous sommes en période de crise. Ce sont des élections de sortie de crise. Donc, il faut que la communauté internationale nous assiste, tant sur le plan financier que technique, afin de nous permettre d'aller aux élections sereinement. Mais il faut commencer aujourd'hui.
Et ils peuvent choisir les hommes qui vont conduire tout ça?
Mais nous avons un gouvernement en place qui est en train de gérer le pays. Et nous estimons que ce gouvernement sera capable de gérer le pays convenablement jusqu'aux élections.
Bien. Chacun fait semblant de ne pas comprendre, mais malheureusement, nous arrivons au terme de cette émission, puisque le temps tourne vite, et c'est pour ça que, par moment, je vous demande d'aller droit à l'essentiel. Merci monsieur, merci madame d'avoir accepté de participer à ce magazine. Nous reconsacrerons une émission à la Centrafrique le mois prochain. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Olivier Raoul, Camille Lafarge et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.